From the conference center at Temple Square.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des instituts de Logan et d'Ogden.
Thomas S. Monson,
président de l'Église, dirigera cette session de la prêtrise.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis dans le tabernacle, l'Assembly Hall, le Marriott Center de l'Université Brigham Young, le Centre de formation des missionnaires de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise des instituts de Logan et d'Ogden, sous la direction de J. Niles Salmond, Lynn Hopkins et Gerald F. Simon, avec Andrew Unsworth à l'orgue. Nous commencerons cette session dans la prêtrise en écoutant le chœur chanter « Rise up, O men of God ». Ensuite, Mervyn B. Arnold, des 70, fera la prière d'ouverture.
Rise up, O men.
Kind Heavenly Father,
notre Père céleste, si bon, nous inclinons humblement nos têtes devant toi avec appréciation et amour et reconnaissance pour tes tendres miséricordes et toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Nous sommes si reconnaissants pour la prêtrise, pour les ordonnances et pour toutes les occasions que la prêtrise nous apporte, que nous puissions toujours nous souvenir à quoi nous avons été ordonnés et pouvoir assumer nos responsabilités en conséquence. Père Céleste, ce soir, nous t'adressons nos remerciements pour les prophètes à travers les âges, et spécialement ce soir. Nous sommes reconnaissants pour le prophète qui est assis parmi nous. Spécialement, nous te remercions pour Président Monson. Père Céleste, nous te remercions de le préserver et pour l'occasion que nous avons d'être dirigés et guidés par lui à cette époque. Nous sommes privilégiés d'avoir son exemple durant toutes ces années, de raffermir les mains languissantes, de raffermir les veuves. Fait que chacun de nous puissions à notre tour suivre son exemple et faire de même. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de l'occasion et du privilège que nous avons de vivre à cette période sur la terre. Nous apprécions la vie elle-même et toutes ses bénédictions. Alors que ceux qui ont préparé un discours s'adressent à nous ce soir, bénis-les, s'il te plaît, Père. Et bénis-nous que nous puissions avoir des oreilles qui entendent. Et que durant cette conférence, nos âmes et nos cœurs puissent être touchés et que nous puissions agir en conséquence pour être meilleurs. Nous demandons une bénédiction spéciale pour nos missionnaires et ceux qui servent dans les forces armées. Protège-les, s'il te plaît. Et particulièrement, nous prions pour la veuve et pour l'orphelin et pour tous ceux qui n'ont pas les nombreuses bénédictions que nous avons. Humblement, nous prions pour ces choses, avec beaucoup d'amour et d'appréciation, ô Père. Appréciation pour ton Fils et son sacrifice expiatoire. Nous t'aimons, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Brother Arnold.
Merci, Frère Arnold. Le chœur va maintenant chanter Un ange saint de Dieu. Quentin L. Cook, du Collège des Douze Apôtres, nous adressera ensuite la parole. Il sera suivi de l'évêque David Burton, évêque président de l'Église, et de Dean R. Burgess, premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Nous entendrons ensuite John M. Madsen, des 70. Maintenant le chœur.
Descending from the sky.
My dear brethren of the priesthood,
chers frères de la prêtrise, je suis reconnaissant d'assister avec vous à cette session de la conférence générale en ce jour historique. Nous admirons tous les gens qui risquent leur vie pour sauver des personnes en danger. Ma visite en Californie du Sud lors des incendies dévastateurs dus au vent de Santa Ana l'année dernière m'a laissé deux impressions. La première était la manière dont les membres de l'Église sont venus apporter leur aide aux personnes dans le besoin. La seconde était leur reconnaissance envers les pompiers. Le propriétaire d'une maison a raconté ce qu'il a vu les pompiers faire. Il a montré que le vent de Santa Ana souffle du désert torride vers l'océan. Dès qu'un incendie se déclare, ces vents chauds du désert transportent les flammes à une vitesse de 100 à 110 km/h à l'heure. Le propriétaire a dit combien il avait été reconnaissant et admiratif, tandis qu'il regardait les pompiers debout, avec leurs tuyaux derrière une zone dégagée face à un mur de flammes d'une hauteur allant jusqu'à 3 mètres et qui s'abattait sur eux à cette vitesse énorme. Ces hommes et ces femmes courageux ont pu sauver à la fois des vies et des maisons, bien qu'étant personnellement en danger. De temps en temps, personnellement et en tant qu'Église, nous traversons des périodes de crise et de danger. Certaines surviennent rapidement comme un incendie, d'autres sont subtiles et passent presque inaperçues jusqu'à ce qu'elles soient sur nous. Certaines nécessitent des actes héroïques, mais la plupart sont moins spectaculaires. La façon dont nous y faisons face est cruciale. Mon but ce soir est de rappeler aux détenteurs de la prêtrise l'importance d'écouter les paroles des prophètes. C'est un moyen sûr de réagir aux dangers physiques et spirituels de toutes sortes. Il est peut-être utile d'en donner quelques illustrations. Beaucoup d'entre vous ont participé à des marches commémoratives et sont sensibles au sauvetage impressionnant des convois de charrettes à bras, Willie et Martin. La première fois que j'ai pris conscience de ce sauvetage, j'étais adolescent. Ma mère m'a donné un livre d'Orson F. Whitney, qui est devenu apôtre par la suite. Le livre de Frère Whitney m'a appris l'effort héroïque dirigé par Brigham Young pour sauver les convois des charrettes à bras. Ils avaient été rattrapés par des tempêtes de neige sur les hauts plateaux du Wyoming. Certaines personnes étaient mortes et beaucoup d'autres étaient mourantes. Brigham Young a été mis au courant de leur état critique et, lors de la conférence générale d'octobre 1856, a dit aux saints de laisser tout ce qu'ils étaient en train de faire et d'aller au secours des gens bloqués dans les plaines. La réaction a été impressionnante. Frère Whitney a rapporté: ces hommes, courageux du fait de leur héroïsme, car c'est au péril de leur vie qu'ils ont bravé les tempêtes hivernales dans les plaines, se sont rendus immortels et ont gagné la reconnaissance éternelle de centaines de gens qui, sans aucun doute, ont été sauvés grâce à leur action dans les meilleurs délais. L'une des raisons pour lesquelles ma mère m'avait donné ce livre était que Frère Whitney avait cité particulièrement l'exemple de mon grand arrière-grand-père, David Patton Kimball, qui avait participé au sauvetage quand il avait 17 ans. Tous les sauveteurs ont lutté contre une neige épaisse et les tempêtes au-dessous de zéro pendant la plus grande partie du sauvetage des convois de charrettes à bras. Le grand sacrifice de David et de ses compagnons a permis de faire traverser la Sweetwater, qui charriait des blocs de glace à bon nombre de pionniers. Ce récit véridique m'a beaucoup impressionné. Je voulais prouver mon dévouement au Seigneur par quelques actions spectaculaires. Cependant, dans une conversation avec mon grand-père, celui-ci m'expliqua que lorsque le président Young a envoyé son père David, les autres jeunes gens en mission de sauvetage, il leur a dit de faire tout leur possible pour sauver le convoi de charrettes à bras, même au péril de leur propre vie. Leurs actes de bravoure ont été particulièrement de suivre Brigham Young le prophète et ainsi d'exprimer leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Mon grand-père m'a dit que le dévouement constant et fidèle au conseil d'un prophète est la vraie leçon que je devais tirer du service de mon arrière-grand-père. Aussi héroïque qu'a été pour David et ses compagnons le sauvetage des pionniers, il est aussi courageux aujourd'hui de suivre les conseils de notre prophète. Un récit de l'Ancien Testament souvent cité illustre ce principe. Naaman, grand dirigeant de Syrie, était frappé de lèpre. Il apprit que le prophète Élisée en Israël pourrait le guérir. Élisée envoya un messager lui dire qu'il devait se laver 7 fois dans le Jourdain. Au début, Naaman fut irrité par ce conseil, mais ses serviteurs lui dirent, « Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Naaman suivit alors le conseil du prophète Élisée, et il fut purifié. Comme Naaman, vous, jeunes détenteurs de la prêtrise, aspirez peut-être à faire quelque chose de difficile ou à participer à quelque chose de spectaculaire comme le sauvetage des charrettes Zabra. Mais votre résolution devrait être de suivre les conseils du prophète. La première présidence a réaffirmé son engagement à relever le niveau de dignité des jeunes gens qui sont recommandés pour le service missionnaire. Nous abstenir des péchés du monde et atteindre les critères élevés du service missionnaire devrait être un de ses buts. Vous préparez à recevoir du prophète un appel à proclamer l'Évangile et à sauver spirituellement certains enfants de notre Père Céleste serait à la fois important et héroïque. Vous pouvez relever ce défi. Tout au long de l'histoire, notre Père Céleste plein d'amour et son Fils Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, nous ont donné la bénédiction d'avoir des prophètes qui nous conseillent et nous avertissent des dangers à venir. Dans la section 21 des Doctrines et Alliances, parlant en particulier du prophète, le Seigneur déclare « Vous prêterez l'oreille à toutes ses paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue. » Nous avons eu le grand privilège ce matin en assemblée solennelle de soutenir Thomas S. Monson comme prophète, voyant et révélateur et comme 16e président de l'Église dans cette dispensation. Plus tard, dans cette session de la prêtrise de la conférence, nous aurons la bénédiction d'entendre son premier discours de conférence générale en tant que président et prophète. Nous devrons le soutenir de tout notre cœur et de toutes nos actions en faisant très attention à ce qu'il enseigne et aussi à ce que nous ressentons. Du plus profond de mon cœur, j'aime et j'apprécie notre prophète précédent, Gordon B. Hinckley, et cela restera en moi pendant toutes les éternités. Mais tout comme il y a de la place en notre cœur pour tous les enfants qui naissent dans notre famille, nous avons ce même amour et ce même dévouement pour chaque prophète que le Seigneur appelle pour diriger son Église. Les prophètes sont inspirés pour nous fixer des priorités prophétiques afin de nous protéger des dangers. Par exemple, Heber J. Grant, qui a été prophète de 1918 à 1945, a été inspiré de souligner le respect de la parole de sagesse, principe accompagné d'une promesse et révélé par le Seigneur au prophète Joseph. Il a souligné l'importance de ne pas fumer ni de boire de boissons alcoolisées et a demandé aux évêques de rappeler ces principes lors des entretiens pour la recommandation à l'usage du temple. À cette époque-là, le fait de fumer était socialement accepté comme un comportement approprié, voire chic. La médecine acceptait le tabac sans beaucoup s'inquiéter, car il faudra encore de longues années pour que des études scientifiques associent la cigarette à plusieurs sortes de cancers. Le président Grant a parlé avec grande vigueur, et cela nous a fait connaître comme des gens qui s'abstenaient de boire de l'alcool et de fumer. Depuis la fin des années 1960, la consommation de drogue a pris l'ampleur d'une pandémie mondiale. Bien que certains membres de l'Église se soient rebellés, la grande majorité des jeunes de l'Église ont été capables d'en éviter la consommation dévastatrice. Obéir à la parole de sagesse a permis à nos membres, surtout à nos jeunes, de se protéger de la drogue et des problèmes de santé ainsi que des dangers moraux qui en résultent. Malheureusement, il semble qu'il y ait actuellement une recrudescence de la consommation de drogue. Le respect de la parole de sagesse aujourd'hui vous libérera de certains dangers des plus graves que vous pouvez rencontrer dans la vie. Les prophètes nous enseignent parfois des priorités prophétiques qui nous protègent maintenant et dans l'avenir. Par exemple, le président Mackay a été prophète de 1951 à 1970. Un sujet sur lequel il a beaucoup insisté a été la famille. Il a enseigné qu'aucune réussite ne peut compenser l'échec au foyer. Il a recommandé aux membres de fortifier la famille en accroissant la pratique religieuse. Ses enseignements ont été une protection contre la désintégration de l'institution du mariage qui est survenue après sa mort. Grâce aux enseignements du président Mackay, les saints des derniers jours ont renforcé leur engagement envers la famille et envers le mariage éternel. En tant que détenteurs de la prêtrise de l'Église, nous avons la responsabilité solennelle de suivre notre prophète. Nous soutenons le président Monson et ses conseillers, le président Eyring et le président Uchtdorf. Nous voulons que vous, les jeunes, sachiez que Thomas S. Monson a été préparé par le Seigneur depuis sa jeunesse pour être prophète. Après avoir servi dans la marine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été ordonné comme évêque à 22 ans, puis a été membre d'une présidence de pieux. À 32 ans, il a été président de mission avec sa femme, Frances. Il a été appelé comme apôtre par le président Mackay quand il n'avait que 36 ans. Il est le plus jeune à avoir été appelé comme apôtre dans les 98 dernières années, et il sert à cet office depuis 44 ans. Au cours des 22 dernières années, il a été conseiller des otages Benson, Howard W. Hunter et Gordon B. Hinckley, président de l'Église. La section 81 des Doctrines et Alliances de l'Église donne des instructions quant au devoir de conseiller dans la première présidence. Elle contient d'importants principes de la prêtrise. La première instruction est d'être diligent dans ses devoirs de conseiller. Le président Monson a été le conseiller diligent de chacun des trois prophètes sous la direction desquels il a servi. L'unité de la première présidence, dans toutes ses décisions importantes, a été un exemple pour nous tous, détenteurs de la prêtrise, dans l'exercice du gouvernement de l'Église. La deuxième instruction est de proclamer l'Évangile. Le président Monson a été un grand missionnaire pendant toute sa vie. Son effort missionnaire personnel, sa supervision du département missionnaire et appeler et former les présidents de mission ont été réalisés avec enthousiasme. Il contribua grandement à l'élaboration du nouveau guide missionnaire, Prêcher mon Évangile. En plus de son aide précieuse à la rédaction, il inspira le fait que de vrais récits soient inclus pour que ce guide soit plus intéressant. Grâce à son expertise d'éditeur, il en a amélioré l'aspect et la mise en page. Il est un grand missionnaire. La troisième instruction dit « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné, va au secours des pauvres, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. » Beaucoup de nos frères et sœurs rencontrent des problèmes dévastateurs. C'est en leur tenant la main en chrétien que nous, dirigeants de la prêtrise, parents, amis et instructeurs au foyer, pouvons ressembler aux sauveteurs du convoi de charrettes à bras. Les efforts de sauvetage du président Monson à cet égard ont été vraiment exemplaires. Quand il était évêque, il a appris à servir les membres de sa paroisse. Il est resté en contact avec leurs enfants et petits-enfants et les a servis. Malgré un emploi du temps chargé, il a pris la parole au service funèbre de toutes les 84 veuves qui vivaient dans sa paroisse quand il était évêque. Il a tendu la main vers les personnes qui étaient dans le besoin d'une manière remarquable et personnelle. Ces longues années de supervision des efforts humanitaires ont été une bénédiction pour les gens du monde entier, aux membres et aux personnes extérieures à notre foi. Son ministère personnel a été chrétien et il a réconforté d'innombrables personnes en leur apportant la paix. Un de mes amis, qui a perdu un petit-fils dans un accident tragique, m'a dit que son chagrin dépassait presque toute compréhension. Le ministère du président Monson, à son égard, a presque transformé son chagrin insurmontable en une paix qui surpasse toute compréhension. Son effort pour s'occuper personnellement des malades et des affligés a été extraordinaire. Le président Monson a fait de son mieux pour aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir le genou qui chancelle. Il a remarquablement magnifié son appel de conseiller dans la première présidence. Il a témoigné vaillamment du nom de Jésus-Christ dans le monde entier, ce qui est la première responsabilité de tous les apôtres. En tant que dernier arrivé parmi les 12 et participant à ma première réorganisation de la première présidence dans la salle supérieure du temple de Salt Lake City en février, j'ai reçu la confirmation de l'Esprit quand les 12, chacun, et d'une manière unanime, ont soutenu le président Monson comme le prophète du Seigneur et le président de l'Église. Je suis reconnaissant à notre Père Céleste qui nous aime et à son Fils Jésus-Christ. Il est notre Sauveur et par l'expiation, notre suprême sauveteur des dangers physiques et spirituels de la vie. Il est notre avocat auprès du Père. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Good evening.
Bonsoir. Les passages d'écriture de ce soir, par exemple, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et souvenez-vous en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, prennent un sens nouveau lorsque nous analysons les points saillants de nos récents efforts humanitaires de l'année dernière. Récemment, un compte-rendu des actions humanitaires a été fait au Comité général d'entraide de l'Église. Le directeur du comité, qui était alors Gordon B. Hinckley, a exprimé sa profonde reconnaissance pour la générosité des membres et des nombreux autres participants qui n'appartiennent pas à notre Église et qui ont rendu possible ces actions caritatives. Au nom du Comité général d'entraide, nous exprimons nos remerciements aux nombreuses personnes, familles et nombreux collèges et groupes de la société de secours, de jeunes gens et de jeunes filles qui sont devenus les bons samaritains d'aujourd'hui. En 2007, l'Église a apporté son aide dans les cas suivants. Tremblement de terre important dans 5 pays, énorme incendie dans 6 pays, la faim et la famine dans 18 pays, et des inondations et de graves tempêtes dans 34 pays. Au total, l'Église et ses membres ont réagi à 170 majeurs événements dans 152 pays, près d'un événement tous les deux jours pendant toute l'année. Cette année était chargée, avec de nombreuses occasions de servir son prochain. Outre les réactions aux catastrophes naturelles, des milliers d'autres actions ont été entreprises pendant l'année pour résoudre des problèmes urgents de santé publique. Plus d'un million de personnes ont bénéficié de projets d'alimentation en eau potable parrainés par l'Église dans 25 pays. Plus de 60 500 personnes ont reçu des fauteuils roulants dans 60 pays. Au début de cette année, Sir Burton et moi, avec la présidence de l'interrégion du Nord de l'Amérique du Sud et de concert avec la Première Dame de Colombie, avons participé à l'une des distributions de fauteuils roulants. Nous avons eu les larmes aux yeux lorsque les bénéficiaires et le personnel soignant ont exprimé leur reconnaissance. Dans ce pays, plus de 54 000 personnes voient mieux maintenant. Plus de 16 500 professionnels de la santé ont reçu une formation de réanimation néonatale. À leur tour, ils en formeront beaucoup d'autres. Pour éliminer les oreillons, 2 800 000 enfants et jeunes de 10 pays ont été vaccinés contre cette maladie. Les effets combinés de ces actions d'entraide ont touché directement près de 4 millions de personnes dans 85 pays différents. En août, un tremblement de terre important de force 8 a tué 520 personnes et détruit plus de 58 000 maisons dans le sud du Pérou. Dans une merveilleuse démonstration d'amour et d'intérêt, chacun des 29 pieux de Lima a apporté l'aide de base à une paroisse en particulier de ce secteur dévasté. Avec l'aide de missionnaires merveilleux, un plan est en cours pour aider les gens à reconstruire leur maison et leur vie. En tout cas, 400 maisons seront reconstruites et les gens, leurs amis et les familles feront une grande partie des travaux. La supervision, la coordination et la formation sont sous la direction de missionnaires remarquables, frères et sœurs laitons. Vers la fin de l'année, une combinaison de temps sec et de grands vents ont provoqué une série d'incendies de forêt dans le sud de la Californie qui ont forcé plus d'un million de personnes à quitter leur maison. 1500 maisons au moins ont été détruites. L'Église a réagi en fournissant des nécessaires de nettoyage, des couvertures, des trousses de toilette et de la nourriture. Pour le programme des mains serviables, plus de 5000 membres et missionnaires de l'Église ont nettoyé, préparé des repas, réconforté et témoigné de l'attention pour les personnes dans le besoin. Pour exprimer sa reconnaissance, une personne a dit « Veuillez transmettre un grand merci à tous les saints des derniers jours qui ont travaillé très dur dans mon quartier. Les mormons étaient constamment présents avec des repas, des marques d'affection, des prières et de l'aide pour préparer et dégager nos biens. Ils ont remonté le moral aux habitants de ma ville, consolé les gens et réparé les maisons dans les collines de San Diego. Réfléchissant à cette expérience, un président de Pew a dit « L'un des projets consistait à aider à nettoyer les abords de l'église baptiste locale. Nous y avons affecté 25 jeunes. Les baptistes ont dit qu'ils auraient beaucoup de beignets et de café pour nous. Nous les avons dit que le café s'éventrait, mais que nos jeunes pouvaient avaler autant de beignets qu'on pourrait leur en fournir. De fortes pluies ont entraîné des inondations dans les États du Midwest, en Oregon et dans l'État de Washington l'année dernière. Des bénévoles accompagnés de fournitures provenant du magasin de l'évêque sont venus pour aider les nécessiteux. Quand les représentants de l'église de Findlay, en Ohio, ont remis un don à la Croix-Rouge locale, une passante les a vus dans leur maillot jaune de main serviable mormon. Elle est rentrée et a brandi son téléphone portable, appareil photo, avec une photo de 4 participants du programme des mains serviables et s'est exclamée « Ils viennent de sauver ma maison ». Puis elle a embrassé tout le monde. Une cargaison de nourriture a été livrée à une banque alimentaire de la région. À son arrivée, le directeur Hilaire Etonnet a dit « Comment avez-vous su ? Je viens de donner mon dernier pain et j'avais prévu de fermer boutique. » Comment l'avez-vous su? Travaillant avec l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer les oreillons qui tuent près d'un million d'enfants chaque année, plus de 54 000 membres de l'Église se sont portés volontaires pour aider à organiser cette action. Un membre de l'Église du Nigeria a écrit « J'appelle notre travail le sauvetage des innocents ». Nous sommes allés de maison en maison et de mairie en mairie. Une femme nous a dit qu'elle avait perdu 3 enfants à cause des oreillons. Elle a raconté son histoire avec tant de grâce et de passion que tout le monde pleurait dans la maison, et moi aussi. Ce que l'on fait pour soi disparaît quand on disparaît, mais ce que l'on fait pour les autres reste comme un legs. Notre effort mené depuis 4 ans pour aider les personnes accablées par un raz-de-marée en Indonésie et dans le sud de l'Asie s'est aussi poursuivi. Des fonds ont été fournis pour aider à la reconstruction de 902 maisons, de 3 centres municipaux et de 24 réseaux d'alimentation en eau et de 2 dépensionnaires. Un dirigeant civique a dit « Les habitants sont heureux et reconnaissants d'avoir un centre municipal ». C'est un endroit où nous pouvons prier et instruire les enfants. Nous prions Dieu d'accorder les bénédictions et la réussite à l'Église à l'avenir. Merci. En Éthiopie, on a aidé des villages à avoir de l'eau potable. L'Église a foré des puits et construit des citernes. Les villages ont organisé une comité de l'eau et creusé les tranchées nécessaires pour amener l'eau des citernes jusque chaque village. Dans certains cas, la distance dépassait 5 km. Certains villages ont eu du mal à tenir leur engagement de creuser les tranchées. Le sol était dur, sec et plein d'argile, ce qui rendait le creusement plus difficile. Dans un de ces villages, une école de 1500 élèves interrompu les activités scolaires habituelles pour quelque temps et tout le monde a participé au creusement des parties restantes des tranchées. Pendant qu'ils travaillaient, d'autres habitants du village se sont joints à eux. À un endroit, il y avait une ligne de près de 2 km de long de personnes en train de creuser. Je vous remercie de votre compassion, de votre bonté et de votre générosité. Puissions-nous faire davantage pour alléger la charge de notre prochain, encourager et aider les défavorisés, ouvrir notre porte-monnaie pour assister les pauvres et tendre des mains secourables. Je rends témoignage que notre Seigneur Jésus-Christ et son Évangile sont divins, et je prie pour que nous puissions continuer à jouir des bénédictions que reçoivent les vrais disciples. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
As an Aaronic priesthood young man,
je me souviens de l'enthousiasme que j'ai ressenti lorsque, jeune de la prêtrise d'Aaron, j'ai été ordonné diacre. Il me tardait de pouvoir remplir mes tâches de la prêtrise. Lorsque j'étais à la primaire, j'observais très attentivement les diacres de ma paroisse en vue du jour où j'aurai 12 ans, où je recevrai la prêtrise et pourrai distribuer la Sainte Cène. Ce jour est enfin arrivé. Et peu après avoir été ordonné par mon père, qui était l'évêque de la paroisse, je me suis senti prêt, quoique nerveux, à commencer mes devoirs de nouveau diacre. J'appartenais maintenant à un collège de la prêtrise d'Aaron. Les membres de mon collège sont devenus mes meilleurs amis. Cette amitié, cette fraternité du collège ont continué à se développer au cours de ma jeunesse, tandis que nous apprenions et œuvrions ensemble dans nos devoirs de la prêtrise. Nous étions tous bons amis et passions des moments amusants et agréables ensemble dans nos activités de collège. Un dimanche après une de ces chaudes et longues réunions de Sainte-Cène, le premier conseiller de notre épiscopat m'a pris à part pour me parler. Cet entretien de prêtrise imprévu est devenu une bénédiction dans ma vie lorsque j'ai médité la question qu'il m'a posée pendant notre court mais important échange. Frère Bateman m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, « Dean, sais-tu qui tu es ?» Il y a eu un silence total, puis il m'a fait un rappel rapide et puissant. Tu es le fils de Reed Burgess. Le sens et la portée de cette question se sont gravés dans mon cœur pour longtemps, et j'y ai souvent réfléchi pendant ma adolescence. La question de ce bon frère, sais-tu qui tu es, m'a guidé, inspiré tout au long de ma vie, et m'a fait m'engager à respecter et à honorer ma famille et la prêtrise. Ce soir, je pose à chacun de vous, jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, la même question qui m'a été posée lorsque j'étais jeune homme. Savez-vous qui vous êtes? Le fait de savoir qui vous êtes vous rend spirituellement fort, solide et immuable dans vos devoirs de la prêtrise. Vous prenez de l'assurance avec la foi et la volonté de prendre de bonnes décisions. Vous avez le courage de défendre ce que vous savez être bien. Vous vous rendez compte que c'est un honneur de détenir la prêtrise de Dieu et d'avoir l'autorité d'agir en son nom. Ammon, un grand missionnaire du Livre de Mormon, était un serviteur fidèle et courageux du roi Lamoni. Il a miraculeusement protégé les troupeaux du roi Lamoni et a fait tout ce qu'il a pu pour servir le roi. Lorsqu'il a appris les actions puissantes d'Ammon, Lamoni s'est demandé qui celui-ci était vraiment. Ammon a déclaré, « Voici, je suis un homme, et je suis ton serviteur. C'est pourquoi tout ce que tu désires de juste, je le ferai. » Alors quand le roi a entendu ces paroles, il s'étonna de nouveau, car il voyait qu'Amon pouvait discerner ses pensées. Mais malgré cela, le roi Lamoni ouvrait la bouche et lui dit, « Qui es-tu? Es-tu ce grand esprit qui sait tout ?» Amon répondit et lui dit, « Je ne le suis pas. » Il lui a alors expliqué qui il était en disant, « Je suis un homme, créé à l'image de Dieu, et je suis appelé par son Esprit Saint à enseigner à ce peuple. » Il savait qui il était et quelle était sa véritable mission. L'une des plus grandes quêtes de la vie est de trouver qui nous sommes. En tant que parents et dirigeants, nous faisons des efforts sincères et honnêtes pour aider ceux que nous aimons à comprendre et à connaître la réponse à cette question simple mais profonde, « Qui suis-je ?» Je vous le demande, jeune gens de la prêtrise d'Aaron, comment faire pour recevoir la connaissance et le témoignage de qui vous êtes ? Réfléchissez aux trois questions et aux principes qui s'y rattachent, qui sont indispensables pour comprendre notre véritable identité. Premièrement, savez-vous que vous êtes fils de Dieu? Vous êtes littéralement fils de Dieu, engendré spirituellement dans la vie prémortelle. Étant son enfant, vous pouvez être assuré que vous avez un potentiel divin et éternel et qu'il vous aidera dans vos efforts sincères pour l'atteindre. Le fait de savoir que notre Père Céleste nous aime et que nous sommes ses enfants nous donne la force, le réconfort et l'espoir nécessaire pour vivre dans cette condition mortelle. Dans la première épître de Jean, nous lisons, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes importants pour votre Père Céleste qui vous aime. Jeunes gens, priez toujours. Vos prières, le matin et le soir, vous aideront à découvrir que vous êtes fils de Dieu. Deuxièmement, savez-vous qui vous êtes dans le plan de Dieu? Alma l'a appelé le grand plan du bonheur, un plan que Dieu a préparé pour vous et pour chacun de vous, de nous. Si nous suivons ce plan, nous pourrons chacun avoir du bonheur maintenant et retourner en sa présence après notre mort. Notre Père Céleste a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ détacher les liens de la mort et expier nos péchés et les péchés du monde. Permettre au Sauveur d'expier nos péchés est la plus grande expression de l'amour que notre Père porte à chacun de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait de connaître et croire à la mission du Sauveur, d'y croire et de la comprendre, nous aide à savoir qui nous sommes. En application du plan de notre Père Céleste, vous êtes envoyé dans un foyer terrestre et dans une famille. Les alliances que vous faites dans le plan de Dieu individuellement et en famille vous lieront pour toujours à votre famille et à la famille de Dieu pour toute l'éternité. Honorez et respectez le nom que vous portez. Respectez les principes et les commandements de Dieu. Permettez à d'autres personnes de savoir qui vous êtes par la façon dont vous respectez les principes, comme on peut le trouver dans la brochure Jeunes, soyez forts. Étudiez ces principes divins, méditez-les, respectez-les. Ils sont là pour vous. Troisièmement, savez-vous qui vous êtes en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Vous avez été baptisé, avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes membre de l'Église rétablie de Jésus-Christ. C'est son Église, et il nous a donné un prophète de Dieu pour nous instruire, nous mener, nous guider, et pour diriger son œuvre ici-bas. Je témoigne que Thomas S. Monson est notre prophète en ces temps difficiles. Écoutez-le. Lui et d'autres prophètes d'aujourd'hui vous enseigneront qui vous êtes et comment ressembler au Sauveur. Vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et avez été ordonné pour détenir la prêtrise de Dieu. Le président Monson a dit, nous avons été chargés de détenir la prêtrise et d'agir au nom de Dieu. Nous avons reçu un dépôt sacré. Beaucoup est attendu de nous. Vous faites partie d'un collège, de la prêtrise de jeunes gens, où vous pouvez ressentir la fraternité et l'amitié des autres détenteurs de la prêtrise. Le collège vous protège des influences du monde. Vous pouvez vous servir les uns les autres, et participer aux ordonnances de la prêtrise. Dans vos collèges, on vous enseigne également les principes de l'Évangile de Jésus-Christ, qui vous aident à comprendre qui vous êtes. Jeunes gens, honorez la prêtrise de Dieu. Je témoigne que savoir qui vous êtes et respecter vos promesses et vos alliances au Seigneur vous apportera le bonheur dans la vie. Puissions-nous être capables de connaître et de comprendre qui nous sommes vraiment. Puisse l'esprit que nous ressentons ce soir rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen.
My beloved brethren of the
Mes chers frères de la prêtrise, pour commencer, je voudrais adresser mon discours à tous les diacres des 12 ans qui assistent à cette session générale de la prêtrise. Où que vous soyez, je veux saluer votre présence et vous raconter, vous rappeler l'expérience que Gordon Binkley a eue quand il était, comme vous, un diacre de 12 ans. Dans sa biographie, nous lisons, peu de temps après avoir été ordonné diacre, il a assisté à sa première réunion de la prêtrise de Pieux avec son père. Il ne sortait pas très à l'aise et il a trouvé une place au dernier rang de la chapelle de la 10e paroisse, tandis que son père, qui était dans la présidence de Pieux, a pris place sur l'estrade. Au début de la réunion, les 300 ou 400 hommes présents se sont levés pour chanter l'hymne triomphant de William W. Phelps. Gloire à celui qui a vu Dieu le Père et que Jésus a choisi pour voyant. En cette dispensation dernière, il est béni du fidèle croyant. Repensant à cette expérience, le président Hinckley a dit, « Quand j'ai entendu chanter ces hommes deux fois, il s'est passé quelque chose en moi. Mon cœur a été touché. Cela m'a donné un sentiment difficile à décrire. J'ai ressenti une grande force à la fois émotionnelle et spirituelle. Cela ne m'était jamais arrivé en termes d'expérience de l'Église. J'ai alors eu la conviction que l'homme dont il était question dans le chant était réellement un prophète de Dieu. J'ai alors su, par le pouvoir du Saint-Esprit, que Joseph Smith était vraiment un prophète de Dieu. Je prie pour que, tout comme cette expérience que le président Hinckley a eue quand il était diacre de 12 ans, a été une expérience dont il s'est souvenu tout le reste de sa vie, vous vous souveniez toute votre vie de l'expérience que vous avez aujourd'hui. Maintenant, je vous demande de regarder cette sculpture de bronze remarquable intitulée « Le banc des diacres ». Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas la voir, elle représente cinq diacres pris sur le vif alors qu'ils sont assis sur un banc à l'église. En regardant ces cinq diacres, que voyez-vous? Tandis que je vais lire les déclarations de deux anciens présidents de l'église, je vais poser la question un peu différemment. Que pouvez-vous voir? Président Joseph Fielding Smith a déclaré, « Nos jeunes sont la noblesse des cieux, une génération de choix et choisis qui a une destinée divine. Ce sont des esprits qui ont été gardés pour venir à notre époque, où l'Évangile est sur la terre et où le Seigneur a besoin de serviteurs vaillants pour accomplir sa grande œuvre des derniers jours. » Président Spencer W. Kimball a déclaré, « Nous élevons une génération royale qui a des choses particulières à accomplir. » À la lumière de ces déclarations prophétiques, si nous élargissons notre vision au-delà de cinq diacres sur un banc, pour inclure tous les jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, alors, que voyons-nous? Je crois que nous pouvons tous voir leur potentiel divin. Et je prie pour cela, pour que nous puissions les voir agir en détenteurs de la sainte prêtrise, en missionnaires prêchant l'Évangile éternel, par l'Esprit, dans le monde entier, en mari et père fidèle, en serviteurs vaillants et en dirigeants de l'Église et du royaume de Dieu en ces derniers jours. Afin d'avoir une vision plus claire de la destinée divine de cette génération royale et choisie, il suffit de réfléchir à Jésus quand il avait 12 ans, qui est allé à Jérusalem avec ses parents pour célébrer la fête de Pâques. Qui était ce garçon de 12 ans? Quelles étaient sa mission et sa destinée? Et comment a-t-il pu les accomplir? Nous proclamons, et les Écritures confirment, qu'il était et qu'il est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est venu dans le monde afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice, afin que le salut parvienne aux enfants des hommes par la foi en son nom, que, lorsqu'il était jeune, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, qu'il a grandi avec ses frères, s'est fortifié et attendu du Seigneur le moment de son ministère. » qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a eu des tentations de toute espèce, mais il ne prêta pas attention. Et quand il s'est trouvé face à Lucifer, le père de tous les mensonges, le maître du péché, Jésus a été protégé non seulement par sa connaissance des Écritures, mais aussi par son obéissance absolue à la parole et à la volonté de son Père. Et il a commandé, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » En ce qui concerne la manière dont il a pu accomplir sa mission et sa destinée, voyez ce qu'a dit Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les paroles suivantes que le Seigneur a adressées à Joseph Smith, le prophète, disent clairement que chacun de nous, en tant que fils de Dieu, peut accomplir sa mission et sa destinée. En vérité, ainsi que dit le Seigneur, il arrivera que toute âme qui délaisse ses péchés vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, pourra venir au Père en mon nom et recevoir sa plénitude en temps voulu. J'en témoigne, et je témoigne aussi que président Thomas S. Monson est véritablement un prophète de Dieu, et que lui, ses conseillers dans la première présidence, et les membres du Collège des 12 apôtres, sont des prophètes, voyants et révélateurs. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, brethren.
Merci, mes frères. Nous invitons le chœur et l'assemblée à chanter le cantique numéro 202, Ancien d'Israël. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera ensuite la parole. Il sera suivi de Henry B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence. Maintenant, nous chantons.
Thank you.
My dear brethren, I feel
Chers frères, je ressens votre force et votre bonté. Tandis que nous nous assemblons, nous qui sommes la prêtrise de Dieu, je vous aime, je vous admire. Merci de votre foi, de vos prières et de votre désir de servir le Seigneur. Cela fait maintenant 2 mois que Thomas S. Monson m'a appelé comme deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église. Je suis sûr que cela a été une surprise pour beaucoup. Cela m'a également pris au dépourvu. En fait, je dirais que j'étais certainement la deuxième personne la plus surprise sur Terre. La première était ma femme. Le jour où le collège des 12 apôtres s'est réuni dans le temple pour soutenir le président Monson et l'ordonner et le mettre à part comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, je débordais de joie de pouvoir lever la main en signe de soutien à mon ami bien-aimé et dirigeant. Après son soutien, le président Monson a annoncé qui seraient ses conseillers. Le président Eyring n'était pas une surprise, c'est un homme à la grande stature et à la belle personnalité. Un très bon choix comme premier conseiller, comme je l'aime et comme je l'admire. Le président Monson a ensuite annoncé qui serait son deuxième conseiller. C'était un nom qui m'était étrangement familier. C'était mon nom. J'ai regardé autour de moi, je n'étais pas certain d'avoir bien entendu. Mais le sourire de mes frères et l'air compatissant du président Monson m'ont assuré que ma vie était de nouveau sur le point de changer. Le président Hinckley nous manque à tous. Il continue d'être une bénédiction pour nous. Le président Monson est le prophète de Dieu pour notre époque. Je l'honore. Et j'engage mon cœur, mon pouvoir, mon esprit et ma force dans cette grande œuvre. En 1979, un grand avion de ligne transportant 257 personnes a quitté la Nouvelle-Zélande pour aller faire un aller-retour touristique vers l'Antarctique. Cependant, les pilotes ne savaient pas que quelqu'un avait modifié les coordonnées de vol de 2 degrés seulement. Cette erreur a placé l'avion à 45 km à l'est de l'endroit où les pilotes pensaient être. À l'approche de l'Antarctique, les pilotes sont descendus à une altitude plus basse pour que les passagers aient une meilleure vue du paysage. Tous deux étaient des pilotes expérimentés, mais aucun n'avait effectué ce vol auparavant et ils n'avaient aucun moyen de savoir que les mauvaises coordonnées avaient directement placé leur trajectoire en direction du mont Erebus, un volcan actif qui s'élève au-dessus des paysages glacés et qui atteint une hauteur de plus de 3700 mètres. Tandis que les pilotes continuaient leur vol, la blancheur de la neige et de la glace qui recouvrait le volcan se confondait avec la blancheur des nuages qui se trouvaient au-dessus. Ils avaient donc l'impression de voler au-dessus d'une surface plane. Le temps que les instruments signalent que le sol montait rapidement vers eux, il était trop tard. L'avion s'est écrasé sur le flanc du volcan, tuant tous les occupants. Cette terrible tragédie a été causée par une erreur minime, une question de quelques degrés seulement. Pendant les années où j'ai servi le Seigneur et les innombrables entretiens que j'ai menés, j'ai remarqué que la différence entre le bonheur et le malheur pour les personnes, les couples et les familles vient souvent d'une erreur de quelques degrés seulement. L'histoire de Saül, roi d'Israël, en est une illustration. Au départ, la vie de Saül était très prometteuse, mais elle se termina d'une façon malheureuse et tragique. Au début, Saül était un jeune homme aux grandes qualités. Parmi les enfants d'Israël, il n'y en avait pas de meilleur. Il fut personnellement choisi par Dieu pour être roi. Il avait bien des atouts. Il était imposant physiquement et venait d'une famille influente. Bien sûr, il avait des faiblesses, mais le Seigneur lui promit de le bénir de le soutenir et de le faire prospérer. Les Écritures nous disent que Dieu lui promit d'être toujours avec lui, de lui donner un autre cœur et de le changer en un autre homme. Lorsqu'il bénéficiait de l'aide du Seigneur, Saül fut un roi magnifique. Il unit Israël et vainquit les Ammonites qui avaient envahi le pays. Bientôt, il dut faire face à un problème beaucoup plus grand. Les Philistins, qui avaient une terrible armée composée de chars, de cavaliers et d'un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Les Israélites étaient si terrifiés par les Philistins qu'ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers. Le jeune roi avait besoin d'aide. Le prophète Samuel lui fit dire d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive et que lui, le prophète, fasse un sacrifice et demande les directives du Seigneur. Saül attendit 7 jours, mais Samuel n'arrivait toujours pas. Finalement, il pensa qu'il ne pouvait plus attendre. Il rassembla le peuple et fit ce qu'il n'avait pas l'autorité, pas d'autorité de la prêtrise de faire. Il offrit lui-même le sacrifice. Lorsqu'il arriva, Samuel eut le cœur brisé. Il lui dit, « Tu as agi en insensé. Si seulement le nouveau roi avait patienté encore un peu et n'avait pas dévié du chemin du Seigneur, si seulement il avait suivi l'ordre révélé de la prêtrise, le Seigneur aurait affermi son royaume pour toujours. Mais maintenant, lui dit-il, ton règne ne durera point. » Ce jour-là, le prophète Samuel distingua une faiblesse cruciale dans la personnalité de Saül. Sous la pression d'influences extérieures, Saül n'avait pas l'autodiscipline nécessaire pour tenir le cap, pour faire confiance au Seigneur et en son prophète, et pour suivre la procédure établie par Dieu. De petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences dans notre vie. La différence de quelques degrés, comme pour le vol vers l'Antarctique, ou l'incapacité de Saül de suivre la recommandation du prophète un peu plus longtemps encore, peuvent sembler minimes. Pourtant, même de petites erreurs peuvent, avec le temps, faire une différence spectaculaire dans notre vie. Je vais vous raconter comment j'expliquais ce principe à de jeunes pilotes. Imaginez que vous deviez décoller d'un aéroport situé à l'équateur avec l'intention de faire le tour du monde, mais que votre trajectoire soit déviée d'un degré seulement. Lorsque vous seriez de nouveau à la même longitude, de combien auriez-vous dévié? De quelques kilomètres? D'une centaine de kilomètres? La réponse va peut-être vous surprendre. Une erreur d'un degré seulement vous ferait dévier de près de 800 kilomètres, ce qui équivaut à une heure de vol pour un avion à réaction. Personne ne veut que sa vie ne finisse par une tragédie. Mais beaucoup trop souvent, comme les pilotes et les passagers du vol touristique, nous entreprenons ce que nous espérons être un voyage passionnant. Puis, nous nous rendons compte trop tard qu'une erreur de quelques degrés nous a mis sur la voie d'un désastre spirituel. Pouvons-nous tirer une leçon de ces exemples? De petites erreurs et de légers écarts par rapport à la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ peuvent avoir de tristes conséquences pour nous. Il est donc d'une importance capitale de faire preuve d'assez de discipline pour effectuer rapidement des corrections décisives afin de retourner sur la bonne trajectoire et de ne pas attendre ni espérer que les erreurs vont se corriger toutes seules d'une manière ou d'une autre. Plus nous attendons avant d'agir, peut-être jusqu'au point même qu'un désastre nous attende, plus les changements nécessaires seront importants et plus il nous faudra de temps pour revenir sur la bonne trajectoire. Vous, les hommes de la prêtrise, avez reçu une grande responsabilité. Réfléchissez à ceci. notre Père Céleste, vous confie, jeunes diacres, instructeurs et prêtres, il vous confie la clé du ministère d'ange et de l'évangile préparatoire. Vous, homme de la prêtrise de Melchizedek, avez contracté un serment et une alliance, selon lesquels vous avez obtenu la promesse de recevoir tout ce que le Père a, si vous magnifiez votre prêtrise. Le Seigneur nous rappelle que l'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Les détenteurs de la prêtrise de Dieu ont la grande responsabilité d'être des exemples de bonté pour le monde. Nous répondons à ces attentes lorsque nous reconnaissons rapidement les dangers et les influences qui tentent de nous écarter de la voie du Seigneur, et lorsque nous suivons courageusement les murmures du Saint-Esprit afin d'effectuer les corrections décisives qui nous ramèneront sur la bonne trajectoire. Cette conférence est interprétée en 92 langues et diffusée dans 96 pays par le miracle de la technologie moderne. Beaucoup de vous, frères, assistez à la conférence générale par le biais de l'Internet. De nouvelles technologies telles que celles-ci permettent au message de l'Évangile de se répandre dans le monde entier. Les sites Internet de l'Église sont un bon exemple de la façon dont cette technologie peut être merveilleuse, une merveilleuse source d'inspiration, d'aide et de connaissances. Ces sites peuvent être une bénédiction pour vous, détenteurs de la prêtrise, pour vos familles et pour l'Église. Mais soyez prudents. Ces mêmes technologies peuvent permettre à de mauvaises influences de passer le seuil de votre maison. Ces pièges dangereux ne sont qu'à un clic de souris. La pornographie, la violence, l'intolérance et l'impiété détruisent les familles, les couples et les vies individuelles. Ces dangers sont distribués par de nombreux médias, comme les magazines, les livres, la télévision, les films et la musique, ainsi que l'Internet. Le Seigneur vous aidera à reconnaître ces maux et à les éviter. C'est le fait de reconnaître tôt le danger et de corriger nettement la trajectoire qui vous gardera dans la lumière de l'Évangile. Des décisions mineures peuvent avoir des conséquences majeures. Le fait d'entrer dans un forum de discussion étrange et risqué sur l'Internet peut vous conduire au centre d'une violente tempête. Le fait de mettre un ordinateur dans une pièce séparée à laquelle le reste de la famille n'a pas accès peut être le point de départ d'un voyage trompeur et dangereux. Cependant, le Seigneur n'exige pas seulement des actions extérieures. Il veut également que vos pensées et vos sentiments intimes soient proches de l'esprit de la loi. Dieu exige le cœur et un esprit bien disposé. Nous, la prêtrise de Dieu, avons la responsabilité et le pouvoir de nous diriger nous-mêmes. Il n'est pas convenable que je commande en tout. Les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice, car ils ont en eux le pouvoir d'agir par eux-mêmes. Avant que nous venions dans cette existence mortelle, notre Père Céleste savait que des forces négatives tenteraient de nous dévier de notre trajectoire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a préparé un moyen pour que nous puissions faire des corrections. Par le processus miséricordieux du véritable repentir et par l'expiation de Jésus-Christ, nos péchés peuvent nous être pardonnés et nous ne périrons point, mais nous aurons la vie éternelle. Notre désir de nous repentir montre notre reconnaissance pour le don de Dieu et pour l'amour et le sacrifice du Sauveur en notre faveur. Les commandements et les alliances de la prêtrise permettent de mettre à l'épreuve notre foi, notre obéissance et notre amour pour Dieu et pour Jésus-Christ. Mais plus important encore, il nous donne l'occasion de ressentir l'amour de Dieu pour nous, et de recevoir une pleine mesure de joie dans cette vie comme dans la vie à venir. Ces commandements et ces alliances de Dieu sont comme des instructions de navigation données par le ciel. Ils nous conduiront sains et saufs à notre destination. La beauté et la gloire de cette dernière dépassent notre compréhension. Elle vaut la peine de faire des efforts. Elle vaut la peine de faire des corrections décisives maintenant, puis de garder le cap. Souvenez-vous, les cieux ne seront pas peuplés de personnes qui n'ont jamais fait d'erreur, mais de personnes qui ont reconnu qu'elles avaient dévié de leur trajectoire et qui ont effectué les corrections nécessaires pour retourner dans la lumière de la vérité de l'Évangile. Plus nous chérissons les paroles des prophètes et plus nous les appliquons, mieux nous nous rendrons compte lorsque nous dévions de la trajectoire, même si ce n'est que de quelques degrés. À présent, mes frères, il en est qui ont négligé d'effectuer les bonnes corrections de trajectoire et qui croient être maintenant bien trop loin du chemin du Seigneur pour pouvoir revenir un jour. À eux, nous leur proclamons la bonne nouvelle qu'est l'évangile de rédemption et de salut. Quel que soit l'écart que vous avez fait, quelle que soit la distance que vous avez parcourue, le chemin du retour est certain et clair. Venez, apprenez du Père, offrez le sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. Ayez foi et croyez au pouvoir purificateur de l'expiation infinie de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés et nous nous repentons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cette voie n'est peut-être pas facile, et elle nécessite de la maîtrise de soi et de la détermination, mais sa fin est glorieuse au-delà de toute description. Vous n'êtes pas condamné à une fin tragique. Beaucoup de personnes désirent vous aider, votre famille, votre évêque, votre président de pieux, vos dirigeants de collège ainsi que vos instructeurs au foyer. Bien sûr, votre plus grand ami est le Créateur Tout-Puissant de l'univers. C'est sa prêtrise que vous détenez. Il comprend votre chagrin. Il connaît votre douleur. Notre Père Céleste et lui vous béniront, vous réconforteront et vous fortifieront. Ils marcheront à vos côtés et vous porteront si vous vous efforcez de rectifier votre trajectoire. Mes chers frères, vous êtes véritablement des fils élus et précieux de notre Père Céleste. Il vous a confié le pouvoir sacré de la prêtrise. S'il vous plaît, ne déviez pas de la trajectoire, même de quelques degrés. Écoutez le Seigneur votre Dieu, et il vous fera ce qu'il a promis de faire pour Saül. Il vous donnera un autre cœur, vous changera en un autre homme, et sera toujours avec vous. Je témoigne de notre Père Céleste, qui vous connaît et vous aime. Je vous rends témoignage de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est à la tête de l'Église. Thomas S. Monson est le prophète de Dieu aujourd'hui. Mes chers amis et frères de la prêtrise, je vous exprime mon amour et ma reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mon but ce soir est de vous aider à avoir plus confiance que vous pouvez vous élever au niveau des bénédictions du serment et de l'alliance de la prêtrise, et que vous y arriverez. La grandeur des conséquences possibles de ce serment et de cette alliance peut exiger de donner un coup de pouce à votre confiance. Le Seigneur a expliqué clairement ces conséquences en s'élevant au niveau des possibilités qu'offrent le serment et l'alliance. On reçoit le plus grand de tous les dons de Dieu, la vie éternelle. C'est l'un des buts de la prêtrise de Melchisédek.
Si nous respectons les alliances que nous faisons lorsque nous recevons la prêtrise et si nous les renouvelons dans les cérémonies du Temple, nous avons, par un serment fait par notre Père Céleste, Elohim, la promesse que nous obtiendrons la plénitude de sa gloire et que nous mènerons la même vie que lui. Nous aurons la bénédiction d'être scellés à jamais dans une famille, ainsi que la promesse de connaître un accroissement éternel. Comme on peut s'y attendre, ne pas obtenir cette bénédiction aurait des conséquences tragiques. Le Seigneur a été clair également à ce propos. Voici les paroles que leurs dirigeants disent souvent aux jeunes gens quand ils approchent de l'âge où ils peuvent recevoir la prêtrise de Melchisédek. Vous rappellerez vraisemblablement ce que vous avez ressenti la première fois que vous les avez entendus. Ce sont les paroles du Sauveur, Jésus-Christ, qui nous sont adressées par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le prophète. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur. Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Et celui qui reçoit mon Père reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera donné. Et cela se fait selon le serment et l'alliance qui appartiennent à la prêtrise. C'est pourquoi tous ceux qui reçoivent la prêtrise reçoivent ce serment et cette alliance de mon Père qui ne peut rompre et qui est immuable. Mais quiconque rompt cette alliance après l'avoir reçue et s'en détourne complètement, n'aura pas la rémission des péchés dans ce monde ni dans le monde à venir. Et malheur à tous ceux qui ne viennent pas à cette prêtrise que vous avez reçue, que je confirme maintenant sur vous qui êtes présents ce jour, par ma propre voix venant des cieux. Et j'ai même donné mes ordres aux armées célestes et à mes anges à votre sujet. Et je vous donne maintenant le commandement de prendre garde à vous-même et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. Si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai entendu ces paroles quand j'étais jeune, le défi d'accepter la prêtrise de Melchisédek peut paraître intimidant. Il y a au moins deux raisons d'être confiant et non découragé par les peines encourues si l'on ne respecte pas le serment et l'alliance, ou si l'on décide de ne pas les accepter. Que vous acceptiez le serment et l'alliance et les trouviez trop difficiles, ou que vous n'essayiez pas, la sanction est la même. Il ne fait donc aucun doute que la meilleure voie à suivre est pour vous et moi de recevoir la sainte prêtrise et d'essayer de tout notre cœur de respecter les alliances. Si nous choisissions de ne pas essayer, nous serions certains de perdre la possibilité d'avoir la vie éternelle. Si nous essayons, si nous réussissons avec l'aide de Dieu, nous obtiendrons la vie éternelle. Il y a encore une autre raison de décider maintenant, d'essayer de tout son cœur de se qualifier pour ce serment et cette alliance, et d'avoir confiance que l'on réussira. Dieu promet l'aide et le pouvoir qui apporteront la réussite si l'on fait preuve de foi. Je vais vous décrire quelques-unes des bénédictions que vous recevrez si vous faites preuve de foi. Premièrement, le fait même qu'on vous a offert le serment et l'alliance est la preuve que Dieu vous a choisi. En connaissant votre pouvoir et votre capacité, il vous connaît depuis que vous étiez en sa présence dans le monde des esprits. Avec sa prescience de votre force, il vous a permis de trouver la véritable Église de Jésus-Christ et de recevoir la prêtrise. Vous pouvez être confiant parce que vous avez la preuve de sa confiance en vous. Deuxièmement, le Sauveur vous a promis de vous accorder son aide personnelle si vous essayez de respecter vos alliances. Il a dit que si vous allez de l'avant en honorant la prêtrise, il serait là aussi. Il a ajouté, car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Comme moi, vous avez peut-être parfois besoin d'avoir l'assurance que vous aurez la force nécessaire pour faire face à vos obligations dans cette prêtrise sacrée. Le Seigneur a prévu ce besoin d'assurance. Il a dit, « Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leur appel, sont sanctifiés par l'Esprit, à tel point que leur corps est renouvelé. J'ai vu l'accomplissement de cette promesse dans ma vie et dans celle d'autres personnes. L'un de mes amis était président de mission. Il m'a dit qu'à la fin de chaque journée, pendant qu'il servait, il avait du mal à monter les escaliers jusqu'à son lit le soir et se demandait s'il aurait la force d'affronter une autre journée. Puis, le matin, il s'apercevait que ses forces et son courage étaient renouvelés. Vous l'avez constaté dans la vie des prophètes âgés, qui semblaient ressourcés chaque fois qu'ils se levaient pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile rétabli. C'est la promesse qui est faite aux personnes qui s'acquittent avec foi de leur service de la prêtrise. Vous avez aussi la promesse que vous aurez la force de rendre témoignage et qu'en le faisant, vous serez purifié et rendu apte à avoir la vie éternelle qui vous a été promise. Car je vous pardonnerai vos péchés avec ce commandement, que vous restiez constant dans vos vues, dans la gravité et l'esprit de prière, à rendre témoignage au monde entier de ces choses qui vous sont communiquées. Allez donc dans le monde entier, et là où vous ne pouvez aller, vous enverrez quelqu'un, afin que le témoignage aille de vous, dans le monde entier, à toute la création. Et avec cette promesse, le Seigneur vous a honoré en vous disant, « Vous êtes ceux que mon Père m'a donnés. Vous êtes mes amis. » Il y a une autre bénédiction merveilleuse qui vous encouragera si vous respectez vos alliances de la prêtrise. Le service de la prêtrise vous préparera à vivre dans une famille éternelle. Il changera vos sentiments sur ce qu'implique être un mari, un père, un fils ou un frère. Ce changement de cœur surviendra quand vous sentirez que vous avez davantage de foi, et foi dans la promesse de la vie éternelle par l'intermédiaire de la prêtrise de Melchisedec est vraie. C'est ce qui est arrivé par les Piprates, quand Joseph Smith, le prophète, lui a enseigné la doctrine de la famille éternelle pour la première fois. Il a dit, c'est alors que m'est venue de lui la première idée des organisations de la famille éternelle et de l'union éternelle dans ces relations indiciblement durables qu'aucun des intellectuels, des raffinés, des cœurs purs de haut niveau ne sait apprécier et qui sont le fondement même de tout ce qui est digne d'être appelé bonheur. C'est de lui que j'ai appris que je pouvais garder la femme de mon cœur pour le temps et pour toute l'éternité, et que les sympathies, les affections raffinées qui nous ont rendus chers l'un les uns aux autres émanaient des sources de l'amour éternel divin. C'est lui qui m'a appris que nous pouvons cultiver ces affections et croître et progresser à toute éternité. Alors que le résultat de notre union sans fin serait une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable du rivage. J'avais aimé auparavant, mais sans savoir pourquoi. Mais maintenant, j'aimais avec la pureté, l'intensité d'un sentiment exalté. Je sentais que Dieu était mon Père éternel, que Jésus était véritablement mon frère et que la femme de mon cœur était une compagne immortelle et éternelle. Un ange plein de bonté et serviable qui m'avait été donné pour me réconforter et une couronne de gloire qui m'avait été accordée à tout jamais. Je témoigne personnellement que le service de la prêtrise accompli avec foi a ce pouvoir de changer notre cœur et nos sentiments. Tout jeune homme qui entend mes paroles aujourd'hui peut être assuré qu'en honorant sa prêtrise, il sera protégé contre la tentation du péché sexuel si répandu dans le monde où nous vivons. Il sera possible au détenteur de la prêtrise d'Aaron qui m'entend ce soir, si sa foi augmente en la récompense certaine de la vie éternelle par la prêtrise éternelle, d'avoir la faculté de voir leur vraie valeur chez les filles de Dieu, ayant la promesse d'une postérité, la raison d'être pure et de le rester. De la même manière, la foi au serment et à l'alliance nous amènera à développer la charité essentielle à une famille éternelle. L'une des promesses que nous faisons lorsque nous acceptons la prêtrise est de prendre soin des autres. J'ai vu le miracle de cette progression dans la charité se produire dans le cœur des tentateurs de la prêtrise. Beaucoup d'entre vous l'ont vu, beaucoup de gens extérieurs à l'église aussi. Je me trouvais dans le bureau du président Hinckley quand on lui a transmis un appel téléphonique. Il a parlé brièvement au téléphone, puis est revenu à notre conversation. Mais il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un appel du président des États-Unis qui survolait l'Utah dans l'Air Force One. en route vers Washington. Le président des États-Unis avait appelé pour remercier le président Hinckley de ce que les détenteurs de la prêtrise avaient fait à la suite d'un ouragan. Le président des États-Unis avait dit que c'était un miracle que nous avions réussi à rassembler autant de gens rapidement, travaillant si bien ensemble. Il a félicité nos membres en disant que nous savions comment nous y prendre. Le président des États-Unis peut-être était impressionné par ce qu'il pensait était de grands dons d'organisation. C'était une partie seulement du miracle. Mais la raison majeure de ce miracle était que des centaines, peut-être des milliers de détenteurs de la prêtrise avaient une très grande foi dans le serment et l'alliance de la prêtrise. Ce n'était pas leur manière de s'organiser qui faisait la différence. C'était ce qui les poussait, à cause de leur foi et du serment d'alliance, qu'il faut pousser à parcourir de grandes distances, à rester de longues heures et à supporter des épreuves en représentant du Seigneur Jésus-Christ pour s'occuper des personnes dans le dénuement. En apportant le service de la prêtrise, il acquérait la force et la charité qui sont nécessaires pour devenir de bons maris, de bons pères, bons fils et bons frères dans des familles terrestres et éternelles. Ces exemples de service de la prêtrise se sont manifestés de manière répétée dans l'aide que nous avons apportée à des personnes, des frères et des sœurs de la famille de Dieu dans le monde entier. Je prie pour que vous décidiez ce soir, puis chaque jour, de faire preuve de foi en respectant les alliances que vous avez contractées avec Dieu et que vous obteniez ainsi la réalisation de la promesse qu'il vous a faite par un serment. Vous pouvez le faire par des choses simples. Quand vous réunissez avec votre collège, vous pouvez décider d'y voir des frères de la famille de Dieu. Il y aura quelqu'un d'autre collège ou votre groupe de la prêtrise qui sera dans le besoin. Peut-être ne vous le montre-t-il pas, mais Dieu sait et vous invite à le servir en aidant cette personne. Vous pouvez faire comme le détenteur de la prêtrise qui, chaque fois que je le voyais dans notre service de prêtrise, demandait « Comment va votre grand-mère ?» À ma connaissance, il n'avait jamais rencontré ma belle-mère. Mais il avait appris, je ne sais comment, qu'elle était malade et très âgée. Je ne peux pas vous dire combien cela me touchait de voir la main de Dieu tendue vers moi et ma femme pour nous consoler. Vous pouvez avoir le même effet chaque fois que vous réunissez avec des détenteurs de la prêtrise. Si vous pensez toujours à l'alliance que vous avez faite de secourir les personnes qui ont les mains languissantes et qui portent de lourds fardeaux. En le faisant, vous cultiverez les qualités qui vous permettront d'être un mari, un père et un frère dans une famille éternelle. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez étudier la parole de Dieu, non seulement pour vous, mais pour être un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ auprès de tout le monde. Quand vous développez votre pouvoir d'enseigner l'Évangile, vous vous qualifiez pour aider notre Père Céleste à rassembler ses enfants. Si vous le faites, vous recevrez une autre bénédiction. Si le besoin se présentait un jour dans la famille terrestre ou dans le monde à venir de ramener une brebis perdue, vous aurez reçu davantage de pouvoir que vous n'en êtes peut-être conscient maintenant. Le Seigneur décrit cette bénédiction merveilleuse dans Alma 13, 6. Et ainsi, ils sont appelés par ce saint appel et ordonnés à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin qu'eux aussi entrent dans son repos. Vous pouvez avoir confiance en votre service, avec la promesse suivante de succès. Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion. Il y en eut beaucoup, un nombre extrêmement grand, qui furent rendus purs et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. Et maintenant, mes frères, je voudrais que vous humiliez devant Dieu et produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. Je témoigne que Dieu le Père vit. Vous avez fait des alliances avec lui. Il vous offre un serment, la promesse de la vie éternelle, que vous ne pouvez pas rompre. Je vous témoigne que la prêtrise est le pouvoir par lequel Dieu a créé les mondes par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Je témoigne que Dieu veut que vous réussissiez et que vous retourniez vivre à jamais avec lui en famille. Je vous témoigne que notre Église est la véritable Église de Jésus-Christ. Elle détient les clés de la prêtrise. C'est la prêtrise que Dieu vous a fait l'honneur de vous conférer. Je vous promets qu'il connaît vos capacités et qu'elles sont suffisantes pour que vous puissiez, avec foi, avoir l'espoir de la vie éternelle pour vous et votre famille à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Quel message inspiré nous avons entendu ce soir. Je soutiens tout ce qui a été dit. Nous vous rappelons que l'émission du Chœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Chœur de la Prêtrise des Instituts de Logan et d'Ogden de la belle musique qu'ils ont interprété ce soir. Après mon discours, le chœur terminera la session en chantant « Sachez que chacun peut choisir ». Ensuite, Larry W. Gibbons, des 70, fera la prière de clôture. Alors que je vous regarde ce soir, ce vaste auditoire, je me sens comme un petit garçon en réunion de jeunes témoignages, hésitant à aller rendre mon témoignage. Et puis finalement, sous l'inspiration de sa maman et le murmure de son père, de trouver le courage de frayer mon chemin devant les allées, de me mettre au pupitre, et puis finalement repartir dans l'assemblée. Je ne peux pas le faire. J'exprime mon appréciation pour le vote de soutien que j'ai reçu, ainsi que mes conseillers et pour toutes les autorités générales. Ce soir, je suis conscient que vous, mes frères, qui êtes ici au centre de conférence et dans des milliers d'autres endroits, représentez le plus grand rassemblement de la prêtrise qu'il y ait jamais eu. Nous faisons partie de la plus grande fraternité du monde entier. Combien nous sommes chanceux et bénis d'être détenteurs de la prêtrise de Dieu. Nous avons été instruits et édifié par les messages inspirés que nous avons écoutés. Je prie afin de bénéficier de votre foi et de vos prières pendant que je vais vous faire part des réflexions et des sentiments qui m'ont animé dernièrement pendant que je me préparais à m'adresser à vous. Nous, détenteurs de la prêtrise, avons été placés sur la terre en des temps troublés. Nous vivons dans un monde complexe, parcouru de toutes parts par des courants de conflits. Des machinations politiques mettent à mal la stabilité des pays. Des despotes se saisissent du pouvoir. Des couches entières de la société semblent à jamais opprimées, privées de possibilités et abandonnées à un sentiment d'échec. Nous, qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, nous pouvons faire changer les choses. Quand nous nous qualifions pour recevoir l'aide du Seigneur, nous pouvons élever des garçons, nous pouvons remettre des hommes sur pied, nous pouvons accomplir des miracles à son service sacré. Nos possibilités sont illimitées. Nous avons la tâche d'être les exemples qu'il convient que nous soyons. Nous sommes fortifiés par la vérité. Que la plus grande force au monde aujourd'hui est le pouvoir de Dieu qui s'exerce à travers l'homme. Si le Seigneur nous a confié une mission, nous avons droit à l'aide du Seigneur. N'oublions jamais cette vérité, que cette aide divine qui nous est accordée, bien sûr, l'est selon notre dignité. Chacun doit donc se demander, mes mains sont-elles propres? Mon cœur est-il pur? Suis-je un serviteur digne du Seigneur? Nous sommes entourés de tant de choses conçues pour détourner notre attention de ce qui est vertueux est bon et pour nous tenter avec ce qui peut nous rendre indignes d'exercer la prêtrise que nous détenons. Je ne m'adresse pas seulement aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, mais aux hommes de tout âge. Les tentations se manifestent sous diverses formes tout au long de notre vie. Mes frères, sommes-nous en tout temps qualifiés pour accomplir les devoirs sacrés associés à la prêtrise que nous détenons? Jeunes gens, vous qui êtes prêtres, êtes-vous purs physiquement et spirituellement? Quand vous êtes assis à la table de Sainte-Cène le dimanche et que vous bénissez les emblèmes de la Sainte-Cène? Jeunes gens qui êtes instructeurs, êtes-vous dignes de préparer la Sainte-Cène? Diacre, quand vous distribuez la Sainte-Cène aux membres de l'Église, le faites-vous avec la conscience que vous êtes spirituellement qualifié pour le faire? Chacun d'entre vous comprend-il l'importance de tous les devoirs sacrés qu'il accomplit? Mes jeunes amis, soyez forts. Les philosophies des hommes nous entourent. Le visage du péché porte aujourd'hui souvent le masque de la tolérance. Ne vous laissez pas tromper. Derrière cette façade, il y a le chagrin, le malheur et la souffrance. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Et nul déguisement, aussi attirant soit-il, ne peut changer cela. La nature de la transgression reste la même. Si vos prétendus amis vous pressent de faire quoi que ce soit que vous savez être mal, soyez celui qui défend le bien, même si vous êtes le seul à le défendre. Ayez le courage moral d'être une lumière que les autres suivront. Nulle amitié n'est plus précieuse qu'une conscience pure, qu'une portée morale. Et quel magnifique sentiment que de savoir que vous êtes à la place qui vous est désignée, pure et habitée par la confiance que vous êtes digne de l'occuper. Mes frères de la prêtrise de Melchizedek, vous efforcez-vous chaque jour de vivre comme vous le devez? Êtes-vous gentil et aimant envers votre femme et vos enfants? Êtes-vous honnête dans toutes vos relations avec les gens qui vous entourent, en tout temps et en toutes circonstances? Si l'un d'entre vous a fait un faux pas, il y a des gens qui vous aideront à retrouver votre pureté et votre dignité. Votre évêque ou votre président de branche est tout disposé et désireux de vous aider. Et avec compréhension et compassion, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assister dans le processus de votre repentir, afin que vous soyez de nouveau juste devant le Seigneur. Beaucoup d'entre vous se rappelleront N. Eldon Tanner, qui a été conseiller de 4 présidents de l'Église. Il a donné un exemple inflexible de droiture tout au long de sa carrière dans les affaires. Pendant son service au gouvernement du Canada et constamment dans sa vie privée, il nous a donné ce conseil inspiré. Rien n'apportera de plus grande joie et de plus grande réussite que de vivre conformément aux enseignements de l'Évangile. Soyez un exemple. Soyez une influence bénéfique. Chacun de nous a été préordonné pour accomplir une œuvre comme serviteur choisi de Dieu, à qui il a jugé bon de conférer la prêtrise et le pouvoir d'agir en son nom. N'oubliez jamais que les gens vous regardent pour être guidés et que vous influencez la vie de gens en bien ou en mal, et que cette influence s'exercera pendant des générations. Fin de citation. Mes frères, je répète qu'en tant que détenteur de la prêtrise de Dieu, nous avons le devoir de vivre de telle manière que nous soyons des exemples de droiture que les autres puissent suivre. En réfléchissant à la meilleure manière d'être ces exemples, j'ai pensé à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années à une conférence de pieux. Pendant la dernière session, j'ai observé un jeune garçon assis avec sa famille au premier rang du centre de pieux. J'étais assis sur l'estrade. Tandis que la réunion avançait, j'ai remarqué que si je croisais une jambe sur l'autre, le garçon faisait la même chose. Si je faisais les mouvements contraires et croisais l'autre jambe, il faisait de même. Je mettais les mains sur mes genoux, il faisait la même chose. Je posais le menton sur ma main, il le faisait aussi. Quoi que je fasse, il l'imitait. Cela a continué ainsi jusqu'à l'approche du moment de mon discours. J'ai décidé de le mettre à l'épreuve. Je l'ai regardé droit dans les yeux, certain d'avoir capté son attention, puis j'ai fait bouger mes oreilles. Ma femme m'avait bien dit de ne pas le dire. Il a tenté en vain de faire la même chose. Je l'avais eu. Il n'arrivait pas tout à fait à faire bouger ses oreilles. Il s'est tourné vers son père, assis à côté de lui, et lui a murmuré quelque chose. Il a désigné ses oreilles, puis moi. Quand son père a regardé dans ma direction, manifestement, pour voir mes oreilles bouger, j'étais assis solennellement, bras croisés, parfaitement immobile. Le père a jeté un regard sceptique à son fils, qui avait l'air légèrement décontenancé. Finalement, il m'a adressé un sourire embarrassé et a haussé les épaules. J'ai repensé à cette expérience au cours des années, en pensant que particulièrement quand nous sommes jeunes, nous avons tendance à imiter nos parents, l'exemple de nos dirigeants, nos camarades. Brigham Young, le prophète, a dit, nous ne devrions jamais nous permettre de faire quoi que ce soit que nous ne voulons pas voir nos enfants faire. Nous devrions leur donner un exemple que nous voulons qu'ils imitent. À vous, pères de garçons, dirigeants de garçons, je dis, efforcez-vous d'être l'exemple dont les garçons ont besoin. Le père, bien entendu, devrait être le premier exemple. Et le garçon qui a la bénédiction d'avoir un père digne est vraiment très chanceux. Mais même une famille exemplaire, où le père et la mère sont diligents et fidèles, ont besoin de tout le soutien et de toute l'aide que peuvent leur apporter des hommes bons, animés d'un amour sincère. Il y a aussi le garçon qui n'a pas de père, ou dont le père ne donne pas actuellement l'exemple nécessaire. Pour ce garçon, le Seigneur a prévu un réseau d'aide dans l'Église. Évêques, consultants, instructeurs, chefs scouts, instructeurs au foyer. Quand le programme du Seigneur est opérationnel et fonctionne comme il se doit, nul jeune homme dans l'Église ne devrait manquer de l'influence d'hommes bons dans sa vie. L'efficacité d'un évêque, d'un consultant ou d'un instructeur inspiré a peu à voir avec les signes extérieurs de pouvoir ou l'abondance de biens de ce monde. Les dirigeants qui ont le plus d'influence sont généralement ceux qui embrasent les cœurs au dévouement à la vérité, qui désigne l'obéissance au devoir comme essence de la virilité, qui font d'un événement ordinaire et routinier une occasion de découvrir la personne que nous aspirons à devenir. Nous ne devons pas oublier de mentionner notre Sauveur, Jésus-Christ, qui, en fait, est notre premier exemple. Sa naissance fut prédite par des prophètes. Des anges annoncèrent son ministère terrestre. Il grandit et se fortifia. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Baptisé par Jean dans la rivière connue comme le Jourdain, il commença son ministère officiel parmi les hommes. Au sophisme de Satan, Jésus tourna le dos. Le devoir qui lui était assigné par son Père, il l'embrassa, lui consacra son cœur et lui donna sa vie. Et quelle vie sans péché, altruiste, noble et divine c'était. Jésus œuvra, Jésus aima, Jésus servit, Jésus témoigna. Quel plus bel exemple pourrions-nous essayer de suivre? Commençons à présent, dès ce soir, à le faire. Nous serons débarrassés à jamais de notre vieux moi, avec ses défaites, son désespoir, ses doutes et son incrédulité. Nous connaîtrons une nouveauté de vie, une vie de foi, d'espoir, de courage et de joie. Nulle tâche ne nous semble trop grande. Nulle responsabilité n'est trop pesante. Nul devoir ne nous est un fardeau. Tout devient possible. Il y a de nombreuses années, j'ai parlé de quelqu'un qui a pris le Sauveur pour exemple, qui est resté ferme, loyal, fort et digne à travers les tempêtes de la vie. Il a courageusement magnifié ses appels dans la prêtrise. Il nous a donné l'exemple à tous. Il s'appelait Thomas Michael Wilson. Il était le fils de Willie et de Julie Wilson de Lafayette, en Alabama. Quand il n'était qu'un adolescent et que sa famille et lui n'étaient pas encore membres de l'Église, il a été frappé par le cancer. À la suite de cela, il a subi une douloureuse radiothérapie. Il a eu la bénédiction d'avoir une rémission. Cette maladie a fait que sa famille a pris conscience que la vie est non seulement précieuse, mais qu'elle peut également être courte. Ils ont commencé à se tourner vers la religion pour épuiser de l'aide dans cette période de tribulation. À la suite de quoi, ils ont rencontré l'Église et ont fini par se faire tous baptisés, sauf le Père. Après avoir accepté l'Évangile, le jeune frère Wilson aspirait de toute son âme à être missionnaire, bien qu'il soit plus âgé que la plupart des jeunes gens quand ils commencent leur mission. À 23 ans, il a reçu l'appel à servir dans la mission de Salt Lake City en Utah. Les compagnons missionnaires de Frère Wilson ont dit qu'il avait une foi dépourvue de tout doute, droite et inébranlable. Il était un exemple pour tous. Néanmoins, au bout de 11 mois de mission, la maladie a refait son apparition. Atteint d'un cancer des os, il a dû être amputé d'un bras et d'une épaule. Pourtant, il a continué sa mission. Le courage et le désir ardent de frère Wilson de rester en mission a tant touché son père non membre qu'il a étudié les enseignements de l'Église et s'y est joint lui aussi. J'ai appris qu'une amie de l'Église à qui frère Wilson avait enseigné l'Évangile a été baptisée, mais qu'elle a voulu être confirmée par frère Wilson, pour qui elle avait tant de respect. Accompagnée de quelques membres, elle s'est rendue au chevet de frère Wilson, à l'hôpital. Là, sa main restante, reposant sur la tête de la sœur, frère Wilson l'a confirmée, membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Frère Wilson a continué, mois après mois, son service missionnaire, qui lui tenait tant à cœur, mais qui était si douloureux. On lui donna des bénédictions, on pria pour lui. Du fait de son exemple de dévouement, ses compagnons missionnaires se rapprochèrent de Dieu. L'état de santé de Frère Wilson se dégrada. La fin approchait. Au moment de rentrer chez lui, il demanda de servir un mois de plus, et sa demande lui fut accordée. Il mit sa foi en Dieu, et celui en qui Thomas Michael Wilson plaçait silencieusement sa confiance ouvrit les écluses des cieux et le bénit abondamment. Ses parents, Willie et Julia Wilson, et son frère Tony, vinrent à Salt Lake City pour aider leur fils, leur frère, à rentrer en Alabama. Mais il restait une bénédiction à recevoir, pour laquelle il avait prié, à laquelle il aspirait. La famille m'invita à aller avec elle au temple de Jordan River, où les ordonnances sacrées qui lient les familles pour le temps et pour l'éternité ont été accomplies. J'ai dit au revoir à la famille Wilson. Je vois encore Frère Wilson me remercier d'avoir été là avec ses êtres chers. Il m'a dit, peu importe ce qui nous arrive dans cette vie, du moment que nous avons l'évangile de Jésus-Christ et que nous le vivons. Peu importe que j'enseigne l'évangile de ce côté-ci du voile ou de l'autre, du moment que je peux l'enseigner. Quel courage, quelle confiance, quel amour. La famille Wilson a fait le long voyage jusque chez elle, à Lafayette, où Thomas Michael Wilson a glissé dans l'éternité. Il a été enterré portant sa plaque missionnaire. Mes frères, au moment de quitter cette réunion générale de la prêtrise, prenons tous la détermination de nous préparer les occasions qui nous seront données et d'honorer la prêtrise que nous détenons par le service que nous rendons, par les vies que nous bénissons et par les âmes que nous avons l'honneur d'aider à sauver. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et vous pouvez faire changer les choses. Je rends témoignage de ces vérités au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Oh, this has Our Heavenly Father,
notre Père Céleste, avec beaucoup d'humilité et une reconnaissance profonde, à la fin de cette journée, nous venons vers toi pour cette session de prêtrise, cette merveilleuse journée. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion qui nous a été donnée de soutenir notre prophète et ses conseillers, les 12 et tous ceux que tu as appelés à servir aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour les messages puissants, les doctrines, les conseils et les témoignages qui nous ont été donnés, qui nous ont été partagés durant cette session. Nous prions humblement que tu puisses nous bénir afin que nous ayons la foi, le courage de nous repentir pour nous améliorer de meilleurs fils des pères, frères et détenteurs de la prêtrise, pour que nous puissions rester sur la bonne voie, que nous ayons la discipline nécessaire et la confiance et la foi que nous pouvons être à la hauteur de nos responsabilités et de suivre les paroles de notre prophète, président Thomas S. Monson. Nous prions avec humilité pour ces bénédictions et nous sommes en particulier reconnaissants par-dessus tout pour ton fils, pour son expiation et pour ton amour pour chacun d'entre nous. Nous t'exprimons notre reconnaissance et nos remerciements et nous te demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.